Bon.
Qui t'appelle?
Allô?
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 Allô? Qui est à l'appareil, s'il vous plaît?
Je te laisse deviner.
Bonjour Florent, je suis Thomas, je suis responsable de la section skate du collège Jules Ferry. Alors je sais pas où tu étais toi au collège, à Fécamp.
Non, j'étais à la Providence.
Ah oui, d'accord, ouais, je vois. Bah, alors il n'y avait
ma
pas
maman,
de skate à la Providence.
Était... Non, 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 ma maman était prof et j'ai suivi pour des questions d'organisation.
Ok, d'accord. Alors du coup, bah, là au collège Jules Ferry, on a des élèves qui font du skate 3 heures par semaine. Et qui t'ont
ouais,
préparé.
Ouais, j'ai vu ça de loin, c'est super, bravo.
Ouais, merci, écoute, et bah surtout pour eux, hein, ils en profitent bien. Ils ont préparé quelques questions, et alors notamment, on va peut-être commencer sur les questions qui sont plutôt liées à l'entraînement, vu qu'on était sur le volet sportif. Certains avaient des questions par rapport au coaching, à l'entraînement. Alors, je vais passer le micro.
Alors déjà, bonjour, Florent Balesta, j'avais quelques questions à vous poser concernant le déroulement des compétitions. Sur le déroulement en général, des règles et tout, si vous pouvez me les dire, pour les qualifications et tout.
Alors, il y a beaucoup de choses à savoir. On peut partir de la base du chemin de sélection, c'est-à-dire le processus de qualification pour les Jeux. C'est un chemin assez long. Pour être très clair et très honnête, ça a été un petit peu compliqué. En fait, la Fédération internationale, World Skate, s'organise avec des comités d'organisation locaux, c'est-à-dire des villes qui vont accueillir les étapes. Et ce sont des deals, des contrats qui coûtent très cher parce qu'il faut payer les juges, le prize money, donc les récompenses des athlètes, etc. Et donc, le calendrier, en fait, tombe un petit peu au compte-gouttes. Donc, pour nous, pour les fédérations, pour les athlètes, pour les coachs, c'est pas évident de pouvoir se projeter, de pouvoir faire des budgets, de pouvoir imaginer les skateparks sur lesquels vont concourir les riders. Donc, c'est pas évident. Donc, ça, c'est une première chose. Ce chemin de qualification, il a duré quasiment 2 ans. Ouais, un premier temps qui a duré 1 an et demi avec 5 ou 6 étapes où les skateurs ont marqué des points. Puis, maintenant, on a vu une étape à Shanghai là, il y a une quinzaine de jours, et la prochaine étape à Budapest au mois de juin, ça va représenter 2/3 de la note. Donc 1/3 de la note, c'est les 5 ou 6 étapes qui ont eu lieu pendant 1 an et demi. 1/3 de la note, c'est l'étape qui a eu à Shanghai, et 1/3 de la note, c'est la dernière étape qui va avoir lieu à Budapest. Donc il faut être consistant, il faut être régulier, il faut essayer de faire des coups d'éclat, et c'est pas évident pour les skateurs. Donc ça, c'est valable pour les deux disciplines, le street et le bol, hein, le parc terrain, le parc. Voilà en gros le chemin de qualification.
Que faites-vous précisément?
Oh là là, alors là, précisément, je serais incapable de répondre à cette question-là. Je fais beaucoup de choses très différentes. Je suis beaucoup sur la stratégie, en fait. Là, c'est une responsabilité personnelle et professionnelle de maîtriser tous les enjeux, tous les paramètres de la performance. C'est-à-dire que l'athlète, on doit le connaître par cœur pour l'accompagner. Là, on est vraiment sur du coaching, mais à côté, il faut savoir jouer avec les règles et la concurrence. Il faut connaître les règles par cœur. On peut pas conseiller un skateur alors que on maîtrise pas les règles. Et puis, ben, malgré tout, la concurrence. Et quand je parle des règles, c'est les critères de jugement également, savoir repérer les bons spots dans un skatepark, etc. Connaître son skateur. Enfin, les skateurs qu'on encadre pour les amener à donner le meilleur d'eux-mêmes. Ça, c'est sur le volet technique. Il faut pas oublier le volet physique. Et en ce moment, on se rend compte qu'il y a un facteur mental, psychologique qui est très, 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 très important. Parce que c'est beaucoup de sacrifices, beaucoup de doutes et savoir donner le meilleur de soi-même à un instant donné. Sachant que il peut y avoir du décalage horaire, on peut avoir mal dormi, mal mangé, être un petit peu malade, et il n'y a pas le choix, c'est pour tout le monde pareil, il faut être au top. Donc ça, c'est sur l'accompagnement des athlètes, des règles, mais également l'analyse de la concurrence. Il faut savoir jouer, j'en parlais tout à l'heure, avec ce chemin de sélection qui est un peu complexe. c'est un ranking, donc un classement évolutif, et on voit la concurrence directe, qui a marqué tant de points, qui est en bonne forme, qu'est-ce qu'ils sont capables de réaliser sur telle ou telle figure, comment faire en sorte qu'on se démarque par rapport à tel concurrent aux yeux des juges. Voilà, c'est beaucoup beaucoup de travail, c'est des tableaux Excel, des PowerPoint, c'est après beaucoup de budget, d'administratif, de convocation et de discussion aussi, pour être clair avec les athlètes et leur écosystème, c'est-à-dire tout leur environnement. Ça peut être les parents, ça peut être les coachs, etc. Parce que là, aujourd'hui, vous êtes dans un studio, moi, je suis devant l'ordinateur, devant mon bureau. Soit je passe des coups de téléphone aux athlètes, soit je passe des coups de téléphone à leur coach, soit j'analyse les nouvelles réglementations, je regarde le prix des billets d'avion, je fais beaucoup, beaucoup de choses à la fois. Et en fait, je ne suis pas en contact direct avec les athlètes. On va prendre le foot. Les joueurs de foot sont avec leur club, avec leurs entraîneurs, avec leur famille, etc. Et quand ils sont appelés en équipe de France, ils ont un autre système. Ils ont d'autres partenaires d'entraînement, d'autres joueurs, d'autres sélectionneurs, d'autres entraîneurs, d'autres préparateurs physiques, d'autres médecins, etc. Donc moi, je suis dans ce cas de figure. Donc certains athlètes sont chez eux. Certains ont des coachs, ont des super skateparks, ont des kinés à disposition quand il y a un petit pépin, etc. Et d'autres n'ont pas grand-chose. Et c'est là la difficulté, c'est d'apporter sa pierre à l'édifice et de trouver des systèmes pour que chacun soit dans le même objectif de performance. Donc on comble des trous parfois, sur d'autres athlètes, on renforce ce qui marche bien et on vient combler, il y a peut-être d'autres problématiques qui viennent en jeu. Pour répondre à ta question, précisément, je saurais pas être très précis parce que ça part un peu dans tous les sens. Mais c'est hyper intéressant d'être dans une réflexion permanente pour amener un skateur à son objectif. C'est bien son objectif, c'est pas l'objectif du coach ou de la fédération. C'est OK, tu veux faire quoi? On va regarder ensemble quels sont tes points forts, quels sont tes points faibles et comment on peut t'accompagner parce que au niveau international, le niveau il est là et toi, comment tu peux tirer ton épingle du jeu?
OK, merci. Alors je te passe maintenant Nathan qui a une autre question.
C'est quoi votre entraînement type d'une journée?
J'ai pas d'entraînement type dans une journée. Parce que ça dépend vraiment des skateurs qu'on a en face. On est sur du bol, on est sur du street, on est avec des filles, on est avec des garçons. Ça dépend vraiment et tout rentre en jeu, en fait, dans une planification. C'est-à-dire que un entraînement d'une journée en septembre sera pas forcément la même qu'au mois d'août parce que il peut y avoir une compétition 2 jours avant, il peut y avoir une compétition 3 mois après, on peut préparer des tricks pour vraiment répéter, on peut préparer des tricks pour apprendre à ouvrir son répertoire technique. Peut-être qu'on est sur un schéma classique où à l'approche d'une compétition, on va dire, on est vraiment sur du temps où c'est de la mise en confiance, c'est de la répétition à haute intensité. Sans pouvoir se cramer, on va dire, sur le plan physique. On cherche que le skateur, avant d'aller sur les échéances importantes, il doit être dans un état de fraîcheur. Par contre, à distance d'une compétition, bien loin d'une compétition, là, on peut travailler plus sérieusement sur apprendre de nouvelles figures, ouvrir le champ des possibles. Sur le plan physique, on va essayer d'aller chercher un peu du cardio pour pouvoir encaisser les décalages horaires, récupérer facilement, enchaîner plusieurs jours de compétition, enchaîner un run complet et avoir un état de lucidité. Le physique est important dans le skate parce que je parle beaucoup, mais c'est hyper important de comprendre ça, c'est que c'est tellement précis et ça rejoint le mental. On doit être tellement précis avec une prise de risque sur des gros spots notamment, où on doit être très lucide. Et une fois qu'on est un tout petit peu fatigué, on perd cette lucidité, et on n'a plus totalement les yeux en face de trous. Donc ça se travaille vraiment très tôt, longtemps avant les compétitions. On peut travailler sur du sur du cardio, sur du renforcement, etc. Il n'y a pas réellement de programme précis en fonction des qualités, des défauts des athlètes, mais tout l'enjeu, c'est ça, c'est vraiment de savoir quel athlète on a en face de nous, quel est son objectif et comment on va essayer au mieux de planifier. Et là, c'est très dur. C'est ce que je disais sur une des premières questions. C'est que, on n'a pas un calendrier type.
Merci beaucoup. Tiens, je te passe pour une autre question, Léona.
Ma façon de travailler, je suis beaucoup sur définir les objectifs avec l'athlète. Soit j'ai déjà tout anticipé, soit je propose à l'athlète des directions à suivre. Soit c'est l'athlète qui me dit, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de bosser ci, envie de bosser ça, et on en discute. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur l'objectif de la séance, généralement, même les plus jeunes, ils ont l'habitude de bosser avec moi, ils sont quand même assez autonomes. Ils commencent à intervenir, généralement, dès les routines. Attention, on avait dit qu'on partait sur cet objectif-là, et il faut vraiment que tu te concentres sur tel ou tel aspect. Attention, ce sera ton pied avant, attention, ce sera la prise de risque, attention, prends bien tes repères, etc., etc. Et je suis beaucoup sur de l'analyse. Je laisse été et en fonction des objectifs, je vais donner une petite touche, une petite coloration pour aller chercher le tricks. Généralement, on parle de tricks ou de line, c'est des enchaînements de plusieurs tricks pour que ça vienne le plus facilement possible et que surtout l'athlète comprenne le plus rapidement possible pourquoi ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne pas. Et on a de la chance maintenant avec les téléphones qui filment, on est beaucoup sur de l'analyse vidéo. Donc soit j'arrive à donner la consigne hyper claire, hyper précise. Si j'ai pas la consigne, je préfère rien dire plutôt que dire des bêtises. Et si j'ai trouvé pile poil la consigne qui fait que ça va percuter dans le cerveau du rider, là j'ai tout gagné. Si j'ai pas compris, j'utilise la vidéo. Tiens, regarde, t'es filmé, regarde ce qui va pas. Toi, j'essayais de te dire ça, de tourner ton épaule, de faire ci, de claquer plus tôt. Là, t'étais un petit peu mou sur la phase d'approche, par exemple. Et avec la vidéo, ça passe mieux. Tiens, t'as compris ce que je voulais dire? Ah ouais, c'est bon, j'ai compris. Et ça repart.
D'accord, impec. Et alors, on a Nathan qui a une question vraiment plus précise.
Combien d'heures par jour les skateurs s'entraînent-ils pour les Jeux Olympiques?
Ça dépend des athlètes. On a des génies qui ont besoin de s'entraîner peu et qui en l'espace de 5-10 minutes sont déjà chauds et sont prêts à sauter des gaps de 12 marches par exemple. Je prends l'exemple d'un Aurélien Giraud par exemple ou d'un Joseph Garbaccio. Voilà, eux ils sont prêts tout de suite quasiment. C'est le chien à qui on lance une baballe qui était en train de faire la sieste sur le canapé, il part en courant, il n'y a pas de problème. D'autres sont plus des chats. Ils ont besoin de se mettre dans une routine, bien se chauffer, bien repérer les spots avant de pouvoir commencer à être au top de leur forme. La difficulté en skate, c'est que même si on prend pas énormément de risques, je parle beaucoup du street, mais ça va aussi sur le bol, c'est que à haut niveau, il y a beaucoup d'impact, il y a beaucoup de chutes. Même si on les évite, même si on sait enrouler les chutes sans trop se faire mal, mine de rien, ça crée quand même pas mal de micro-traumatismes à force de faire des gaps, donc des sauts en contrebas notamment. On prend quand même quelques impacts. Donc, on essaye de limiter tous ces impacts et d'aller chercher un maximum de sensations pour comprendre les mouvements. Si on fait 3 heures de sur un gap de 6 à 8 marches voire plus, là on peut se faire mal. Donc on essaye vraiment de limiter ces phases-là. Le skate on peut se faire mal. On a souvent des chevilles qui twistent, des petites entorses de cheville. Ça peut être un peu plus grave. Donc on fait attention. La difficulté aussi pour un skateur, tout à l'heure je parlais de lucidité. C'est que de temps en temps, avec l'adrénaline et l'envie de bien faire, et on n'est pas loin de réussir cette figure, etc., on continue. Donc ça, c'est très bien. Par contre, nous, on a cette responsabilité en tant que coach de se dire, oula, là, ça craint. Là, on commence à être fatigué. On n'est pas loin de réussir la figure. Mais là, l'athlète, il faut que je l'arrête. Il faut que je le calme. On verra ça demain, on verra ça plus tard, parce que là, il y a risque de blessure. Et là, c'est ce qu'on appelle le surentraînement. Il faut être très, très, très vigilant à ça parce que dans un état de fatigue, avec l'adrénaline, des fois, on se rend pas compte. On n'est peut-être pas tout à fait lucide et il suffit d'un rien pour qu'on tombe ou qu'on réussisse. Et il faut trouver cette limite-là et parfois booster le rider et le sortir de sa zone de confort, le sortir de ses retranchements. Parfois, à l'inverse, il faut savoir le canaliser et lui dire stop. Par contre, il faut toujours, en tant qu'athlète, en tant que coach, connaître son athlète, connaître son physique, son mental, sa technique et savoir gérer les temps de récupération.
Ok, merci. Alors, on a Saba qui a une question qui change un petit peu de sujet.
Bonjour. Pensez-vous sincèrement que les filles ont un aussi gros avenir que les garçons dans le skate ?
Les filles ?
Ouais.
Ouais. C'est génial. Moi, je me régale avec les filles parce qu'il faut savoir qu'on part de rien. Il y a quelques années, avant les Jeux Olympiques de Tokyo, bah, tout simplement, il n'y avait pas de compétition filles. Les filles faisaient des compétitions avec les garçons. Fallait être très, très têtu pour les filles et qui étaient parmi les précurseurs, je ne sais pas si on dit précurseuses, je ne pense pas. Et puis le fait que le sport soit devenu olympique, bah ça s'est démocratisé et on a eu une parité de traitement. Dans chaque compétition, il y avait une catégorie filles. Maintenant, c'est devenu automatique. Le prize money, donc les récompenses, sont équitables entre les filles et les garçons. Ce qui fait que le niveau a énormément progressé. Beaucoup de filles se mettent au skate et le niveau est incroyable. Certains juniors, on va dire, de l'équipe de France, qui sont sur des processus d'intégration des équipes de France dans quelques années, pour participer aux Jeux, etc. Bah aujourd'hui, on les fait venir sur des compétitions et on les amène sur les finales filles et on leur montre que les meilleures féminines, il n'y a pas photo, elles les éclatent. Elles éclatent les meilleurs skateurs français qui ont 15-16 ans. Et les plus jeunes qui étaient les plus jeunes à Tokyo, on va dire, en 2021, le podium olympique, la moyenne d'âge, c'était 13-14 ans. Eh bien, ces filles-là sont toujours là. Elles vont avoir 17-18 ans et elles ont encore progressé et elles ont encore une marge de progression. Et je ne suis pas le seul. C'est que vraiment, on se régale à regarder les filles progresser. Et sur le plan du coaching, c'est hyper intéressant aussi. C'est que les filles sont très appliquées et souvent se donnent moins d'excuses que les garçons. Elles se donnent plus de moyens. Voilà, ça c'est aussi un truc à retenir. C'est facile de se donner des excuses, c'est plus difficile de se donner les moyens. Alors il peut y avoir des émotions un peu fluctuantes, mais comme chez les garçons, parce qu'il y a des hauts et des bas. Par contre, ça bosse hyper bien et ça progresse hyper vite.
Ok, merci beaucoup. Peut-être une dernière petite question sur...
J'avais encore une autre question à vous poser. C'était pour savoir combien de médailles à peu près vous avez gagné, vous, avec l'équipe de France.
Je pense qu'on doit être autour d'une quinzaine. Alors, depuis le début du projet équipe de France, c'est-à-dire en 2017, on a commencé à bouger sur des compétitions internationales. Il n'y avait pas de circuit World Skate de la Fédération internationale qui n'existait pas encore, qui a mis du temps à s'organiser. Donc, nous, on a commencé à partir sur des circuits de compétition tels que le circuit World Cup Skateboarding qui existe encore. Il y avait quelques compétitions au Brésil, un peu en Europe, et on a fait pas mal de compétitions. C'est là où on a appris à se connaître, les athlètes entre eux, filles, garçons mélangés, street, ball mélangés parfois. On commence à comprendre ce que c'était que ce Team Skateboard France, cet esprit d'équipe, le lien entre les riders et le lien entre le staff et les riders. Donc on a fait pas mal de compétitions et on est allé chercher quelques titres et quelques podiums. Donc j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais on doit être à une quinzaine, ouais. Ce qui est plutôt bien.
Merci. Alors je t'avais dit une dernière, mais une vraie dernière question cette fois-ci. Après on va te laisser travailler.
Quel est votre skateur et votre skateuse préféré?
Si j'en donne un, je vais faire des jaloux. Non, j'ai pas de skateur, de skateuse préféré. Alors je vais avoir des petits coups de cœur. Et je vais pas rentrer dans le Team France parce que je vais pas faire de favoritisme. Mais tout le monde doit être logé à la même enseigne. Et puis quoi qu'il arrive, qu'on aime ou qu'on aime pas les athlètes, mon job c'est de les accompagner au mieux. Donc il y a pas de favoritisme à faire. Par contre, à l'époque, dans mes années, j'étais très fan de Guy Mariano, qui a eu une vie assez chaotique, un parcours un peu hollywoodien, on va dire, avec des hauts très jeunes. Et puis il a eu des moments, des périodes très très sombres. Et puis il est revenu sur le devant de la scène. C'était chouette à voir. Et aujourd'hui, il est toujours pro. Il fait pas la compétition, mais il est toujours pro pour plusieurs marques. Il gère très bien sa carrière. Il fait ses petites pubs très très bien soigné. Il a une belle image. Et voilà, Guy Mariano sur le street. Je vais parler d'Elisa Steamer. C'était une des premières filles pionnières dans les années, on va dire, 90-2000. Qui était une des seules à skater avec les garçons dans la rue sur des temps vraiment où ils s'investissaient vraiment sur des projets vidéo, voilà, avec des grandes stars. Donc Elisa Steamer était une des premières filles à faire sa place au milieu des garçons. Voilà, il y a quelques légendes que je suivais. Je vais pas avoir de coup de cœur particulier parce que je vais tout mélanger entre les anciennes légendes et j'aime beaucoup aussi le niveau actuel entre les filles et les garçons. Il y a plein de jeunes talents qui sont en train de d'éclore et voilà. Je vais rester sur Guy Mariano et Elisa Steamer.
Merci beaucoup. Merci du temps que tu as pu nous accorder. Sauf si, évidemment, tu as encore du temps. Et est-ce qu'il y a encore des questions? Dernière question. Alors, c'est à chaque fois que je te dis une dernière question. C'est toi qui nous diras stop, en fait. Parce que tu vois comment c'est. Au début, on est un peu intimidé. Et puis après, les questions viennent. Ça devient plus facile.
Est-ce que vous skatez encore?
Ah, ça, c'est une très, 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 très bonne question. Et c'est très personnel. Moi, je skate quasiment plus. J'en suis pas fier. Je suis le premier à dire que le principal, c'est de se faire plaisir. Quand je roule, je me fais plaisir. Malheureusement, aujourd'hui, j'ai connu plusieurs périodes dans ma vie. J'ai eu des soucis de santé, j'ai un peu peur au niveau du skate et surtout, j'ai pas le temps. J'ai pas les potes de session de l'époque. Aujourd'hui, je suis beaucoup avec les champions et malheureusement, j'ai pas trop le temps de skater pour moi. Je suis plus à les coacher, à les suivre au quotidien. De temps en temps, je partage une petite session, je roule, je fais un petit trick ou deux, mais vu que je skate jamais, je mets une heure avant de faire une petite figure toute bête, toute simple. Donc c'est ridicule, mais je prends énormément de plaisir et ça c'est le principal. Faut pas l'oublier. Par contre, j'ai plus le temps de skater pour moi parce que très clairement aujourd'hui j'ai une vie de famille, mon boulot est très 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 chronophage, je suis beaucoup en déplacement, je suis pas souvent à la maison, j'ai une femme et une petite fille, donc quand je rentre à la maison j'essaye de rester à la maison et de passer du temps avec ma femme et ma fille. Si je retournais au skatepark pour du skate, on va dire loisir personnel, ça deviendrait compliqué. Donc, pour être très clair, c'est pas évident de gérer un emploi du temps sur du coaching, sur du haut niveau et gérer une vie de famille.
Alors, merci. Encore une question un petit peu personnelle.
Est-ce que vous allez revenir à Fécamp?
Je suis passé un coup de vent pendant les vacances de Noël, voir ma famille. Très rapidement, je suis passé voir le skatepark que j'avais pas vu de près. J'étais passé devant le rond-point de la Mature là, plusieurs fois en voiture, mais je m'étais pas arrêté là pendant les vacances de Noël. J'y suis passé faire un petit tour. Ça m'a rappelé plein de bons souvenirs parce que place de la Mature, c'est là où je skatais, juste sur le trottoir de en face, de l'autre côté. On skatait ce petit bout de trottoir avec les copains et on se baladait en ville. Donc ça m'a fait remonter pas mal de souvenirs. C'était assez émouvant.
Alors on reste dans le côté people avec des informations sur toi.
À quel âge avez-vous commencé le skate?
Moi, j'ai commencé tard. Alors, j'ai toujours eu un skate dans le garage, à faire du tic-tac, à me balader sur le trottoir en face de chez moi. Et puis, quand je m'y suis mis un peu plus sérieusement, je devais être adolescent, je vais avoir 15-16 ans, quelque chose comme ça. Donc, c'était assez tard. Hein.
Ok, merci. Alors, toujours des questions people. Hein.
Allez-vous partager votre passion de skate avec votre fille?
Bon, elle était même pas née, qu'elle avait déjà tout. Hein. Elle avait une planche de skate, une planche de surf, une planche de snow. Voilà, moi je suis un passionné de ces board culture et oui elle skate un petit peu, elle surfe un peu, elle fait du snow, mais elle fait beaucoup d'autres choses aussi. Elle fait notamment de la gymnastique, elle veut nager, elle veut faire plein de choses. Donc je veux pas la forcer à faire quoi que ce soit, ni du sport de haut niveau, ni du sport que je pratique ou que l'on pratique avec ma femme. On fait beaucoup de surf aussi. Elle fait ce qu'elle veut. Et nous, on l'accompagne. On veut qu'elle soit épanouie et on l'accompagne dans ses projets. Hein.
Ok, bah écoute, merci beaucoup. Cette fois-ci, on a vraiment fait le tour. Il n'y a plus de main levée, plus de questions. Merci pour ta pédagogie, en tout cas. Et puis, le temps que tu nous as accordé.
Super, merci Florent. À très bientôt.
Bonne journée à tous.
Merci,
et
toi aussi.
Profitez bien. Profitez
oui,
bien.
C'est, merci, c'est salut.
Important. Au revoir.
Bon. Qui t'appelle ?
Allô 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 ?
Qui est à l'appareil, s'il vous plaît ?
Je te laisse deviner.